Chapitre 21e, il sandwich, un homme à la mer, mort de Cook. Nous levâmes l'ancre par un temps favorable et nous vîmes en face d'Agagna, descendant le généreux gouverneur des Mariannes, qui avait voulu nous accompagner pendant quelques heures. La brise souffla vigoureuse, la ville s'effaça petit à petit, les élégants cocotiers plongèrent dans les flots, et nous restâmes bientôt en face de nos souvenirs. Tous nos malades avaient repris les forces et la santé, nos vivres étaient frais, et quoique la traversée dût être longue, les visages s'étaient épanouis, car la lèpre n'avait frappé personne, ce que les habitants du lieu regardèrent sans doute comme un miracle. Rota, Agrigan, Tignan, Seipan, Agigan, Anataxan glissèrent devant nous, tous avec leurs larges cratères béants, et trois jours après, loin de toute terre, nous naviguions au sein du vaste océan. Tout à coup, un homme à la mer! Un homme à la mer! Quand un navire se brise sur des roches à pic contre lesquelles cadavres de vaisseaux et cadavres d'hommes sont vomis et mutilés, quand un naufrage engloutit tout, corps et biens, dans un désastre, lorsque, sombrant pleine mer, tout disparaît à la surface des eaux, officiers, matelots et passagers trouvent peut-être un sujet de consolation dans cette pensée « Nous mourrons tous ». Dont vous auriez tort d'accuser l'égoïsme, car vous n'avez pas réfléchi encore. Si un homme meurt sur un navire, il se dit à ses derniers moments « La mer va m'engloutir, ma tombe sera partout et nulle part. Les flots ne gardent point de traces de ce qu'on jette à leur voracité, et quelques instants après m'avoir livré à eux, on chercherait vainement les restes de celui qui vient de s'éteindre pour toujours. » Eux pourtant, ces froids amis qui passent encore à mes côtés en jetant sur moi un regard peut-être, hélas, sans intérêt, ils vont continuer leur course aventureuse. Ils vont visiter de nouveaux climats, se promener sous des cieux nouveaux, et puis ils reverront leur patrie et leur famille. Ils jouiront de leur gloire, ils seront heureux de leur peine passée. Ils diront à ma vieille mère que je suis mort dans une traversée. Et la vieille mère priera pour son fils que des milliers de poissons auront déchiqueté et dévoré en son cercueil de toile. Mais dans un malheur général, l'âme s'agrandit, le cœur se fortifie. Les vents, les flots, la foudre éclatent sur votre tête. Vous retrempez à leur fureur, à leur menace. Plus la lutte est ardente, plus vous trouvez de force pour en triompher. Et si, vaincu enfin, vous succombez sous la puissance des éléments coalisés, vous vous dites encore « Rien ne restera de nous ici-bas qu'un souvenir. On ne cherche pas un homme seul qui meurt, et qu'on sait bien mort, au milieu de tant d'autres hommes vivants, tandis qu'un monde entier volera à la recherche d'une infortune douteuse. Un homme à la mer! Si la nuit est sombre, si les vents sifflent, si la tempête mugit, l'équipage à son poste répète tout bas « Un homme à la mer !» C'est l'affaire de quelques instants, le navire marche, on constatera dans le livre de quart, en phrases assez peu correctes, qu'un homme est tombé à l'eau et que le gros temps n'a pas permis qu'on lui porte à secours. Tout est dit, tout est fait. Si la brise est fraîche, il y a émotion, je vous l'atteste, sur les flots et le navire, car le succès est au bout des efforts. Un homme à la mer, vite, saisis la hache, coupe le filin. La bouée de sauvetage tombe, se tient debout, l'homme nage, il nage encore, il s'encourage dans cette pensée que ses amis ne l'abandonneront pas. Il voit le point de repos qui lui est offert. Il va à lui, l'atteint. Une lame infernale le lui arrache. Il nage toujours. Il le saisit enfin. Il s'y cramponne. Il s'assied là comme sur un siège mouvant. Il s'y tient debout et se balançant avec lui, il jette un regard effrayé vers le navire qui s'échappe. Car voyez-vous, dès qu'il a pris son élan, un vaisseau bondit avec tant de force que rien ne peut l'arrêter à coup sûr et sans lenteur. Le jeu des voiles, si savamment combiné, se fait par des lois connues et régulières. Tel corps ne peut être dénoué avant tel autre, où tout est compromis, homme et bâtiment. C'est une assez lourde maison à faire mouvoir, toute fringante qu'elle paraisse, qu'une corvette à la mer, car elle est aussi, il faut qu'elle ait des flancs robustes, des bras robustes, une quille robuste de zinc ou de cuivre. L'homme à la mer remarque pourtant que le siège se ralentit, on est masqué partout, on a viré de bord, une embarcation est mise à flot, de hardi gavier l'arme avec la ferveur de l'amitié et de l'humanité. Eux aussi courent de grands dangers, eux aussi sont enlevés par la vague écumeuse. Mais il y a là-bas un de leurs camarades près de succomber, qui les attend, qui compte sur leur courage, sur leur dévouement. Le vent souffle avec plus de violence, le navire est compromis, la nuit arrive, sombre, menaçante. N'importe, Le patron du canot ne change pas de route, il mêle sa voix à la voix de la tempête, il appelle, cherche, cherche encore. Son œil fouille dans les ténèbres, il voit son ami debout sur la flèche de la bouée. Là, là, mes braves, il nous a entendus, nage, nage, brise les avirons, nous y sommes. Si partout maintenant, et vous le coulez bas, lof, une amarre, tiens ferme, hisse, hisse donc, il est sauvé. Mais le navire, où est-il maintenant? L'horizon s'est rétréci, le roulement du tonnerre étouffe le bruit du canon qui mugit, les rafales soufflent de tous les points de l'horizon, et le canot tournoie incessamment en dépit de l'homme de barre, qui lutte toujours avec le même calme, car c'est son métier à lui, de ne céder que lorsque les forces manquent au courage. La nuit passe tout entière sur cette terrible scène, nuit solennelle pour tous, effrayante dans la frêle embarcation, cruel sur le navire où, cramponnés au bastingage, matelots et capitaines promènent leur regard avide sur chaque lame qui arrive et se brise. Tous se taisent par moments pour mieux entendre, mais les mugissements de la tourmente arrivent seuls jusqu'à eux. « Le voilà !» dit une voix consolante. Un morne silence succède à ce cri répété par toutes les bouches. Silence religieux, terrible, où le cœur frémit, où les âmes restent absorbées dans une seule et douloureuse pensée. Ce n'était pas lui. Dans 2 jours, demain, aujourd'hui peut-être, le canot sera le théâtre d'une scène de carnage. Ses amis si chauds, si ardents, si dévoués, s'attaqueront avec fureur, se déchireront avec les ongles et les dents, boiront le sang l'un de l'autre, et quand la faim et la soif auront été satisfaites, une nouvelle victime attendra dans d'horribles angoisses que son tour arrive de servir de pâture à un appétit sans cesse renaissant. Voyez-les maintenant, encore tous ces hommes naguère si énergiques. Les avirons immobiles flottent le long du bord. Leurs bras se reposent croisés sur leur poitrine haletante, car les menaces de la faim sont déjà un horrible tourment, et pas un, cependant, n'accuse de son malheur celui qu'ils viennent de sauver. Lui, au contraire, sera la dernière victime. Le désespoir a sa générosité. Le canot monte et descend avec la lame. Ses torses marins se balancent avec l'embarcation sans chercher à garder cet instinctif équilibre qui leur indique d'avance le moment où la vague fera donner de la bande à tribord ou à bâbord. Ce sont des corps sans volonté, sans appui, sans vie. Tout à coup, une voix indignée s'échappe brûlante comme d'une fournaise. « Eh bien, canaille, notre courage est donc mort, nos forces sont donc anéanties. Quoi ? Pas une espérance, pas un dernier effort pour amener au navire l'ami que nous sommes venus chercher ? Aux avirons, gabier, aux avirons! Et si la corvette a filé ses câbles, demain, tous à la fois, nous chavirons cette coquille et nous boirons dans la grande tasse en nous serrant la main. Il vaut mieux boire de l'eau salée que du sang. Aux avirons, gabier! » C'est la secousse galvanique qui vient de réveiller un cadavre. Les bras robustes se plient et se roidissent en mesure exacte. Les flots sifflent, les yeux éteints reprennent leur éclat. Les langues disent un de ces chants de matelots qui brûlera les pages de mon livre, si j'osais les lui confier. Et il y a encore des regards d'amis qui se croisent, des serments de mains qui s'encouragent. Il y a là encore de nobles matelots prêts à recommencer, si le ciel apaise et daigne leur venir en aide, cette vie de sacrifice et de dévouement qu'ils se sont faite et qu'ils ont acceptée. Mais le jour pointe à l'horizon. La vue se fatigue à traverser l'espace. Le vent ne gronde plus avec la même violence. Tout à coup... « Navire, navire !» Et la joie est dans toutes les âmes, une de ces joies qui rendent fou, incomprise par le reste des hommes, une de ces joies dont la violence égale presque une torture. « Navire !» Et de là-bas aussi, on a vu sur les flots le canot aventureux qui fait force de rames pour allier. Deux amis qui courent l'un vers l'autre se sont bientôt rejoints. « En panne maintenant, des amarres à tribord, ils sont là, ils accostent. » Ont-ils sauvé Astier, lui qui en a sauvé tant d'autres? Oui, non? Si, le voilà! C'est lui qui est à la barre. L'évêque, épuisé, écrasé, lui livrait son poste. Et ces matelots sauveurs, ces hommes intrépides qui viennent de lutter avec un courage héroïque, avec un dévouement si admirable, contre une mort presque certaine, reprennent, tranquilles et satisfaits, leur train de vie accoutumé. Et la corvette vire de bord. Et le livre porte ces mots éloquents par leur simplicité. Aujourd'hui, par un gros temps, un homme est tombé à la mer. C'est le gabier Astier, matelot à 36. 12 hommes se sont embarqués dans le petit canot, et après 8 heures d'un travail pénible, ils sont parvenus à ramener à bord leurs camarades qui les attendaient hissés sur la bouée de sauvetage. Le lendemain, on ne parlait plus à bord de l'événement de la veille. Parmi les distractions de l'homme de mer, j'avais oublié celle-ci. Vous conviendrez qu'elle valait bien la peine qu'on en dit quelque chose. Je ne sais pas où l'on trouverait un sujet de drame plus terrible et plus dévorant. Cependant, le point nous plaçait à peu de distance de la principale des sandwichs, et si les courants ne nous avaient pas drossés, nous devions bientôt voir à l'horizon cette pointe tachée de sang où Cook parla pour la dernière fois à ses intrépides matelots. L'œil à l'horizon, chacun de nous cherchait la nouvelle relâche à travers les nuages, rien ne se montrait encore. « Terre !» crie enfin la vigie, « Terre devant nous !» Voici les hommes nouveaux, de nouvelles mœurs, une nature nouvelle. Pour qui aime les contrastes, les voyages sur mer ont un attrait indicible, un seul pas lui montre les extrêmes. La corvette avançait avec majesté, et en quelques heures nous nous vîmes contraints de faire petite voile. Mais la côte, que nous nous attendions à voir d'une hauteur immense, se dessina humble et chétive, partout fatiguée, osseuse, bizarre, sillonnée par de profonds ravins et déchirée par de larges criques où le flot s'engouffrait avec violence. Mais les nuages se dissipèrent enfin, et au-dessus d'eux, au-dessus même des neiges éternelles, dans les régions équinoxiales, se dressèrent trois têtes gigantesques dont nos regards avides ne pouvaient se détacher. Oh, cela était imposant et sublime. Cela nous reportait vers le passé, car le tableau si bien écrit par Cook réveillait tous nos souvenirs. Écoutez ce passé. Un jour, au lever du soleil, par un temps superbe, deux navires dans la belle rade de Karakakoa étaient mouillés à peu de distance l'un de l'autre. Les trois immenses cônes de lave formant l'île d'Ohouillé, l'écrasant de leurs larges pieds et la dominant de leur tête violâtre au-dessus des plus hauts nuages, reflétaient les obliques rayons qui doraient leurs flancs creusés par le bitume. Le Mo'onalae s'élargissait comme pour ne rien perdre de la scène lugubre qui allait se passer au milieu de la baie silencieuse. Le Mo'onaroa allongeait ses épaules anguleuses au-dessus de son frère, et le Mo'onakak, l'aîné des trois, planait sur eux de toute sa tête chauve, dont l'ombre gigantesque se projetait jusqu'à l'horizon. Sur le rivage, c'était une terre labourée, fouillée, en désordre. On eût deviné qu'un combat sanglant y avait eu lieu la veille, car on voyait encore çà et là des débris de vêtements européens, des sagets brisés, des casse-têtes fendues, des lambeaux de manteaux de plumes et de casques à demi enfouis dans le sable. Les cocotiers de la plage étaient riants et se pavanaient dans leur majesté puissante. Les bananiers étalaient à l'œil leurs fruits suaves, onctueux. Les palmes à cristis élégants, plantés en allées serrées, voyaient sous leurs feuilles dentelées des hommes, des femmes, des enfants passés et repassés, se presser la main, se dire tout bas quelques mots à l'oreille, et piétiner, et danser, et jeter un regard avide vers la mer où tout était immobile. À terre, on eût dit une fête avec ses joies, sur les flots, on eût dit un deuil à briser l'âme. C'est que cela était ainsi. Le voyageur ne se serait pas trompé dans ses conjectures. Mais pourquoi ces choses et non pas d'autres? Pourquoi, dites-vous? C'est qu'il y avait là, sur une pointe de rocher s'avançant dans la rade, une large tache de sang. C'est que le plus hardi navigateur du monde, le plus brave, le plus vrai, le plus entreprenant, était tombé là, percé par un poignard de bois durci au feu, au moment où il disait à ses officiers et à ses matelots de ne pas faire feu sur les insulaires. C'est que Cook était mort, là, mort après avoir donné vin à un monde nouveau, monde connu, et que ses débris mutilés, ceux qu'avait épargné la dent des sandwichiens, chiens, allaient être rendus à King, son successeur, et que la rade de Karakakoa se taisait pour mieux entendre le dernier adieu que le compagnon du grand homme allait lui adresser. Un cercueil de fer est là sur le pont du navire où le pavillon britannique déploie à l'air son orgueilleux léopard. L'équipage, debout, le cœur serré, oppressé, les yeux remplis de larmes, la tête nue et courbée, attend le triste signal. Les vergues sont mises en pantaine. Partout le désordre, ce désordre qui dit le deuil et le découragement. Tout à coup le bronze tonne à tribord et à bâbord. Les coups partent à distance égale. L'île d'Ohouillé s'en émeut, les naturels se sauvent dans l'intérieur des terres comme si l'heure de la vengeance était sonnée pour eux. Silence maintenant. Écoutez, écoutez. Un bruissement a lieu. La mer s'ouvre et se referme. Elle a reçu dans son sein et pour l'éternité l'immortel pilote qui l'avait soumise pendant tant d'années, celui qu'il avait si bien étudié, si bien comprise, qu'elle n'avait plus rien à lui cacher du secret de ses calmes et de ses fureurs. Les restes sanglants de Cook sont là, au fond de la rade de Karakakoa, mais sa gloire est partout, mais son nom vénéré est répété d'écho en écho dans toutes les parties du monde.